Voici le temps venu de notre table ronde. Québec veut instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. Il s'agit du projet de loi numéro 173. De quoi s'agit-il exactement et qui peut y avoir accès? On fait le tour de la question avec Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFAN. Elle est aussi directrice adjointe du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de Québec. Et Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour Véronique, bonjour Serge.
Bonjour.
Bonjour.
Alors il y a quelques semaines, vos organismes ont déposé un mémoire à l'Assemblée nationale pour faire part de vos recommandations et ou inquiétudes au gouvernement concernant ce projet de loi. Je m'adresserai d'abord à Serge Petitclerc. Avant de nous donner le punch de votre mémoire, rappelez-nous le rôle du collectif s'il vous plaît.
Oui, dans le fond, le collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est un regroupement d'une trentaine d'organisations nationales et d'une dizaine de regroupements régionaux qui partagent une mission de lutte à la pauvreté, de lutte pour la justice sociale, pour plus d'égalité. Dans le fond, on existe pour rassembler toutes les organisations qui veulent faire en sorte que le Québec devienne une société sans pauvreté, comme notre nom l'indique. On travaille beaucoup aussi sur les questions d'inégalité et de préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, bien, dans le fond, de lutte contre les préjugés envers les personnes.
Et alors, qu'est-ce que vous disiez en résumé dans ce mémoire que vous avez déposé au gouvernement?
Bien, nous, dans le fond, on voulait faire deux choses en participant à la commission parlementaire, en déposant un mémoire. On voulait, d'une part, saluer l'initiative gouvernementale, parce que depuis l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté en 2002, le gouvernement devait se donner une cible à atteindre en termes de lutte à la pauvreté. La cible qui a été déterminée, c'est ce qu'on appelle la mesure du palier de consommation, autour d'un revenu de 18 000 $ pour une personne qui vit seule.
Oui.
Et ce projet de loi-là concrétise cet objectif-là pour une partie de la population qui vit en situation de très grande pauvreté. Et c'est ça qu'on salue. Et la deuxième chose qu'on voulait faire, dans le fond, c'était de mettre de l'avant une série de recommandations pour améliorer le projet de loi. On pourra revenir plus tard dans l'entrevue, mais l'idée, c'était à la fois de saluer et à la fois d'amener certains éléments critiques.
D'accord. Parfait. Et Madame Vézina, vous, la COFAN, comment vous êtes un regroupement aussi? Comment vous y êtes pris pour rédiger ce mémoire, votre mémoire à vous?
Nous, de notre côté, l'élément principal de notre mémoire était de souligner l'importance d'adopter rapidement ce projet de loi-là, parce que ça fait quand même 40 ans là, qu'on nous promet différentes avenues pour s'assurer d'améliorer la situation financière des personnes qui ont des limitations.
Oui.
Donc, la création du programme Revenu de base, pour nous, était une avancée importante. Par contre, on a émis différentes recommandations pour je dirais, bonifier ce qui était sur la table. Puis on est parfaitement conscient, puis on l'indique dans notre mémoire, qu'il y a énormément d'autres actions qui vont devoir être posées pour améliorer la situation de l'ensemble des personnes qui ont des limitations, mais aussi de l'ensemble des personnes qui sont en situation de pauvreté.
D'accord. Donc, un bon premier pas, mais encore plusieurs éléments, plusieurs choses à accomplir. Monsieur Petitclerc, merci. Dans quel contexte le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a-t-il déposé ce projet de loi plus largement?
Bien, je dirais que c'était déposé, évidemment, dans le contexte du dépôt, ou plutôt de la présentation du troisième plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et en fait, le revenu de base, c'est comme la pièce maîtresse de sa proposition de politique pour les cinq premières années. Et la mise en place du revenu de base est évidemment, à la fois quelque chose de très grand, parce que ça fait une avancée évidente, on a déjà parlé. Mais là où on a eu certaines déceptions, je ne vous le cacherai pas, c'est nous, quand c'était déposé, on s'attendait à des mesures beaucoup plus larges sur la lutte à la pauvreté en général. Et dans le fond, on a mis tous les œufs dans le même panier. Un panier important, je le reconnais, mais il y a toutes sortes d'autres questions qui n'ont pas été abordées. Parce que nous, au collectif, évidemment, quand on parle de lutte à la pauvreté, c'est oui, les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi, à l'aide sociale, mais c'est aussi les autres personnes à cité sociale. C'est des personnes âgées, c'est des étudiants, des étudiantes, c'est des travailleurs. au salaire minimum ou des travailleurs, des travailleuses à temps partiel. Il y a tout un inventaire beaucoup plus large pour faire une lutte globale à la pauvreté. Fait que c'est pour ça que d'un côté, on était très contents de l'annonce, mais d'un autre côté, on était déçus pour le reste.
Mm-hmm.
Donc, c'est le contexte général dans lequel on s'est retrouvés. Mais je suis d'accord avec la COFAN pour l'importance d'adopter ce projet de loi-là avant la fin de la session parlementaire et surtout ensuite pour la mise en place du règlement qui va faire en sorte que la loi va se réaliser réellement dans un programme qui va exister à un moment donné. Et si on comprend bien entre les lignes, on s'en va vers une réalisation de ce programme-là à quelque part à l'hiver 2019.
D'accord. Et pour revenir à ce revenu de base, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un revenu de base?
Bien, je voudrais présenter ce qu'est un revenu de base en général. On pourra en parler pendant des heures, mais pour ce qui est de la proposition, non, parce
oui.
que il y a des versions philosophiques de ce qu'est un revenu de base, une allocation universelle, qui est inconditionnelle, qui est universelle, qui est remis de la...
Ne nous mélangez pas, s'il vous plaît.
Non, mais je tiens à le dire parce qu'une des choses qu'on pourrait dire, c'est que dans la version plus philosophique, l'idéal de ce qui pourrait être un revenu de base, ça n'en est pas un. Ce que c'est, par contre, c'est pour les personnes qui sont déjà à l'aide sociale, à qui on a déjà reconnu une contrainte sévère à l'emploi, que ce soit pour handicap, pour handicap mental, que ce soit pour un problème de santé mentale. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où ça va faire court, ça va faire 6 ans, qu'on vous a reconnu une contrainte sévère à l'emploi, eh bien, vous allez avoir droit à ce qu'on appelle le revenu de base, qui est, dans le fond, un nouveau programme à l'intérieur de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Et à partir de ce moment-là, les gens à qui on reconnaît une contrainte sévère de très longue durée ou de longue durée, ben, ces gens-là vont se retrouver avec un revenu équivalent au minimum reconnu pour vivre en santé. C'est ce qu'on appelle la mesure du panier de consommation.
Mm-hmm. Qui est de 18 000 $ par année.
Pour une personne qui vit seule, et évidemment, pour un couple, deux adultes, c'est plus élevé, avec toutes sortes d'autres particularités plutôt intéressantes en termes de des actifs que la personne peut posséder. C'est l'équivalent d'un demi-million de dollars. On peut penser à des héritages ou une maison.
Oui.
Des personnes, ça va être un chèque qui va être remis par individu et non pas pour le couple, ce qui est déjà une grosse amélioration par rapport à l'aide sociale. Il y a toutes sortes d'éléments. La possibilité de conserver un revenu de travail sans aucune pénalité, aucune coupe sur le chèque, ça va être ajouté à ton revenu, puis tu vas payer de l'impôt dessus. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes avec le revenu de base.
Donc, la personne pourrait travailler de temps en temps, c'est ça? Ou...
Ben, en fait, avec le revenu de base, la personne va pouvoir faire des gains d'emploi. On pourrait dire quasi limité, mais il faut s'entendre que la probabilité que la personne ait des gains d'emploi importants après avoir été 6 ans sur une contrainte sévère à l'emploi sont quand même minimum.
Oui.
Mais ces gains d'emploi-là ne seront pas déduits du revenu de base qui va être versé mensuellement. Ça va être, dans le fond, lorsque les gens vont faire leur rapport d'impôt, ils vont ajouter leur revenu de travail à leur revenu de base et ils vont payer de l'impôt sur les gains total.
C'est formidable.
Et la personne va être considérée comme un individu, donc le revenu du conjoint ou de la conjointe ne sera pas compté. Ça aussi, c'est une avancée assez importante.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. On le réclamait depuis longtemps.
Une avancée qui est importante. Par contre, il faut ça va être important pour une personne dont l'autre conjoint va aussi avoir une contrainte sévère à l'emploi ou pour une personne qui a un conjoint une fois qu'elle va avoir eu le revenu de base.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que si notre conjoint ou notre conjointe un revenu qui est supérieur à, je crois que c'est 18 000 $ la personne ne peut pas avoir accès à l'aide sociale. Donc, elle ne peut pas avoir de conjoint avant d'avoir eu accès au revenu de base,
oui.
Sinon, il n'y aura jamais accès.
Ah, d'accord. Ça, c'est
ça fait partie
stratégique.
Des recommandations oui. qu'on a faites de façon plus générale, dans le fond, pour que les gens qui ont un conjoint ou une conjointe qui a des revenus qu'on ne tienne pas compte de ces revenus-là pour leur donner accès à aucun des programmes d'aide sociale.
Ben oui, surtout que si cette personne est seule d'abord puis ensuite en couple, elle gardera son revenu de base.
Oui,
d'accord.
C'est ça.
Bon, OK. Et qui, en fait, là actuellement, qui sont les personnes qui peuvent se prévaloir de ce revenu de base?
Ben actuellement, lorsque le programme sera en vigueur, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que avant que les gens ait officiellement accès au programme de revenus de base, ça n'ira pas avant janvier 2019. Donc, les gens qui ont déjà fait leurs 6 ans sur le programme de solidarité sociale vont avoir accès aux revenus de base à partir de janvier 2019. Par contre, il faut savoir que à partir de janvier 2019, ce ne sera pas la totalité. Donc, les gens n'auront pas accès à un revenu qui est équivalent à la mesure du panier à la consommation. Le montant qui va être alloué à ces personnes-là va monter de façon graduelle de 2019 à 2023.
D'accord. Donc, c'est quand même encore dans longtemps, tout ça, 2023 pour
C'est encore
avoir...
dans longtemps. Ouais. Il faut savoir que le 18 000 $ qui est annoncé pour 2023 se base sur la mesure du panier à la consommation de 2017. La mesure du panier à la consommation va sûrement augmenter.
En plus.
On arrive en 2023.
C'est vrai.
En effet.
Écoutez, on va faire une pause musicale et puis on va voir comment cette loi pourrait être appliquée et comment elle pourrait s'appliquer à plus de monde.
Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
Nous sommes en direct pour la table ronde d'Accès Libre avec Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFAN, et Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté, pour parler du revenu de base, donc ce projet de loi numéro 173. Donc tout à l'heure, on a vu en fait... que ça allait être étalé sur plusieurs années jusqu'en 2023 pour vraiment toucher la totalité du revenu de base qui équivaut à 18 000 $ pour une personne seule, soit la mesure du panier de consommation. Maintenant, je voudrais savoir combien de personnes peuvent concrètement appliquer sur ce nouveau programme. Monsieur Petitclair, peut-être? Est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, ben, en fait, ce qui était indiqué dans la documentation gouvernementale, c'était qu'autour de 84 000 personnes, parmi les 130 quelques mille personnes qui sont en contrainte salaire à l'emploi, se retrouveraient avec un revenu de base à terme en 2023. Évidemment, ce sont des projections,
oui.
Mais on pourrait considérer que c'est des chiffres qui se tiennent quand même. Là. Il faut comprendre en fait que comme il faut avoir une période de 6 ans avant d'y avoir droit, c'est évident que ça prend quelques années avant de pouvoir bénéficier du revenu de base. Donc, c'est des chiffres qui se tiennent.
D'accord. Et ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur le délai de 6 ans?
Bien, moi, personnellement, notre organisation a plutôt tendance à dire qu'à partir du moment où on reconnaît une contrainte salariale à l'emploi, il faudrait être logique et cohérent et faire en sorte que les personnes aient droit au montant requis, c'est-à-dire le fameux 18 000 $ parce que si je peux comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui reçoivent une contrainte sévère à l'emploi et qui peuvent retourner sur le marché du travail, il n'en demeure pas moins que la notion même de contrainte sévère à l'emploi,
oui.
C'est de reconnaître une incapacité permanente ou indéterminée à occuper un emploi et à subvenir à ses besoins. Donc,
oui.
En toute logique, moi, dès le moment zéro, une personne devrait avoir accès à sa contrainte sévère et donc au revenu de base.
Oui, tout à fait.
Et par ailleurs, je tiens à le dire, c'est que c'est difficile d'avoir accès à une contrainte sévère à l'emploi.
Oui, c'est ça. Comment on fait pour reconnaître une contrainte sévère? Madame Vézina?
C'est ma collègue.
Oui.
En fait, M. Petitclair a raison. Ça peut être difficile d'avoir accès à une contrainte sévère, tout dépendant de la limitation ou de la maladie que la personne peut avoir selon le cas. Il y a des diagnostics où c'est très facile d'avoir accès après avoir fait remplir un rapport médical. Les gens y ont accès presque automatiquement. Par contre, pour d'autres, je pense notamment à des gens qui ont une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de l'autisme, un problème de santé mentale ou des fois des maladies comme une maladie... la fibromyalgie, par exemple,
oui.
Où c'est beaucoup en fonction de la douleur de la personne. Pour ces personnes-là, ben c'est moins évident d'avoir accès automatiquement à la contrainte sévère à l'emploi. Des fois, elles n'y ont pas accès du tout. Des fois, il faut qu'elles fassent des demandes de révision et puis ça peut prendre du temps. C'est très variable, je dirais, en fonction de la problématique que la personne peut avoir.
D'accord. Et est-ce que ces revenus de base, Madame Vézina, comprennent les compensations équitables, donc de l'argent que pourraient toucher en plus les personnes en situation de handicap pour leurs besoins spécifiques?
Pas du tout. Nous, ce qu'on considère qui va être versé pour les gens qui vont avoir accès aux revenus de base, c'est ce qui vient combler les besoins de base, se loger, se nourrir, se vêtir. Pour nous, les coûts supplémentaires liés aux limitations sont un dossier indépendant, puis le revenu de base ne vient pas prendre compte de ces
D'accord.
besoins supplémentaires-là.
Donc là, vous réclamez des compensations équitables, c'est ça?
Oui.
Toujours.
Nous, en fait, même si les gens vont avoir accès aux revenus de base, toute la question des coûts supplémentaires est un dossier qu'on va travailler à part parce qu'il y a des surcoûts qui sont liés à différentes limitations ou à différentes problématiques. Puis ces coûts-là, il va falloir aussi un jour les reconnaître. Il y a des travaux qui sont en cours là-dessus, puis il va falloir augmenter le revenu des personnes pour tenir compte de ces contraintes-là.
D'accord, bien sûr. Et M. Petitclair, je me demandais combien ces personnes touchent actuellement, ces 84 000 personnes qui sont comprises dans le programme?
Ben ces gens-là reçoivent le même montant que les gens qui ont une contrainte sévère à l'emploi de plus courte durée. Là. Les gens se retrouvent avec un revenu équivalent à peu près aux 3/4 de ce qui est reconnu comme le minimum vital, le 18 000 $ Donc, c'est autour de 12 000 $ Évidemment, il y a des situations particulières qui peuvent amener plus de revenus ou moins de revenus aux personnes. Est-ce que les gens ont aussi accès à un petit revenu de travail ou pas? Mais c'est dans ces eaux-là. Là. Donc, les gens, même à qui on reconnaît une contrainte sévère à l'emploi, les gens ont un montant inférieur au minimum requis. Et on s'entend, ce minimum-là, là, c'est pas pour sortir de la pauvreté. C'est pour couvrir ses besoins de base. Parce qu'on pourrait avoir une autre discussion sur c'est quoi la sortie de la pauvreté.
Oui.
Et dans notre analyse, là, pas plus tard que la semaine dernière, on a l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui a présenté la notion de revenu viable, où on peut voir que pour être sorti de la pauvreté, il faut avoir la possibilité d'avoir un coussin. Il faut avoir la possibilité de partir en vacances l'été pendant une semaine avec les enfants. Il y a d'autres critères, oui, que la simple survie et la simple satisfaction de ses besoins de base, qui sont de se loger, de se nourrir et de se vêtir. Et quand je dis ça, je dis pas que c'est pas une avancée, c'est pas ça le point, mais le 18 000 $ c'est le minimum pour vivre s'il n'y a pas d'autres coûts. Et effectivement, quand une personne a des problèmes de santé, que ce soit un handicap, les personnes peuvent avoir des besoins supplémentaires, puis ça aussi, il faut que ce soit reconnu.
Mm-hmm, bien sûr.
Mais monter la barre à 18 000, je dirais que c'est un gros morceau, au, ouais, moins pour ces personnes-là.
Et selon vous, il faudrait l'étendre à combien de personnes, en fait? Qui est-ce qui devrait être compris dans ce revenu de base?
Je vous dirais, je ne sais pas si c'est par un revenu de base, mais nous, ce que le collectif a toujours mis de l'avant, c'est qu'à partir du moment où le milieu de la science, le mouvement social, le gouvernement s'entend sur un indicateur, dans ce cas-ci, la mesure du panier de consommation, ce minimum-là, c'est une cible à atteindre pour tout le monde.
C'est-à-dire?
Et ensuite, il faut aussi... il y a autour de 800 000 personnes au Québec qui n'ont pas ce minimum requis, selon les statistiques les plus récentes qui datent de 2014, si je me trompe.
D'accord.
Pas. Alors, on parle d'autour de 760, 800 000, selon les années, ça change un peu, mais c'est autour d'une personne sur 10 au Québec qui n'ont pas le minimum. De ce nombre de personnes, la moitié, ce sont des gens qui sont à l'aide sociale, incluant les gens qui ont une contrainte salariale, mais le reste, l'autre 400 000, ce sont des étudiants et des étudiantes. Ce sont des gens qui sont sur la riche des rentes pour invalidité. Ce sont des gens qui peuvent être au chômage. Ça peut être des travailleurs, des travailleuses au salaire minimum, mais qui ne travaillent pas à temps plein, ou des gens qui ont un meilleur salaire, mais qui travaillent à temps très partiel. Donc, il y a toute une diversité de situations auxquelles on doit répondre. Et tout ne peut pas être réglé avec un seul projet de loi. Mais quand même, moi, je vois ça un peu comme le droit de vote, l'atteinte du droit de vote au travers des décennies, autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Je veux dire, au début, le droit de vote, on le réclamait pour tout le monde, mais on était capable de le gagner par morceaux. D'abord pour les gens qui étaient propriétaires, ensuite pour l'ensemble des hommes, ensuite on a inclué les femmes, ensuite les Autochtones au Canada, mm-hmm, les prisonniers. Donc, à force de bataille, on était capable d'avoir un suffrage universel pas mal,
et là,
je dirais pas complètement total, mais là, avec, ouais, le revenu de base, c'est comme un gros jalon qu'on marque, puis ensuite on peut étendre, je pense, pour d'autres parties de la population.
D'accord, et justement...
On
est bientôt en élection, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour militer en la faveur d'un élargissement ou de plus d'argent?
Moi, je pense qu'il faut agir avant l'élection pour faire en sorte que le projet de loi soit adopté et que le règlement soit édicté par le gouvernement pour que peu importe qui va se retrouver au règne du pouvoir le 1er octobre, que le revenu de base existe, qu'il soit mis en vigueur, mettons, à partir de 2019. Nous, on voudrait que ce soit plus rapidement. Mais il en demeure pas moins que ce serait un premier grand pas. Donc, c'est la première chose à faire. Et ensuite, c'est sûr que nous, comme organisation, on va mettre de l'avant d'autres sortes de revendications pour améliorer le revenu des personnes en général. Deux exemples très courts. Évidemment, il y a toute la question du salaire minimum pour qu'une personne qui, oui, travaille à temps plein sorte de la pauvreté. Et il y a des choses simples qui pourraient être faites par le gouvernement sur lesquelles toutes les parties à l'Assemblée nationale sont d'accord, comme par exemple la fin du détournement des pensions alimentaires pour les gens qui sont à l'aide sociale ou à l'aide financière aux études. C'est,
d'accord,
des choses qui pourraient être faites assez simplement.
D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Madame Vézina, un dernier mot?
Oui. Moi, je vous dirais que nous, on a déjà interpellé les différents,
oui,
partis politiques pour d'abord s'assurer qu'ils vont maintenir le programme de revenus de base s'ils prennent le pouvoir, mais aussi pour les interpeller sur les autres mesures qu'ils vont mettre en place pour améliorer, je dirais, les conditions financières de l'ensemble des personnes qui ont des limitations.
D'accord. Merci pour ce travail. Madame Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFAN. Monsieur Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. On va suivre tout ça et l'application, l'adoption de ce projet de loi. Donc, merci beaucoup à vous deux et puis à une prochaine fois.
Merci.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.